France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Ils sont 200 enfants, dont 90% ont moins de 12 ans, la majorité moins de 7 ans. Certains sont nés là-bas en Syrie, d'autres même nés dans ces camps où ils sont toujours, parce que la France, contrairement par exemple à la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, parce que la France, donc, au nom d'une politique du cas par cas, refuse de rapatrier collectivement femmes et enfants. Depuis janvier 2021, il ne s'est rien passé. Et ces enfants vivent sans soins, dignes de ce nom, sans nourriture, dignes de ce nom, sans soutien psychologique du tout, sans école, sans aucune activité, sans rien, parce que leurs parents ont fait des choix évidemment contestables. Nous avons déjà fait des téléphones sonnent sur ce sujet et depuis s'allonge la liste des organisations qui demandent à la France de ne pas abandonner ces enfants-là. Le Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, la Croix-Rouge Internationale, le Commissariat aux Réfugiés, la Défenseuse des Droits, la Commission Consultative des Droits de l'Homme, le Parlement Européen, le Coordinateur des Juges d'Instruction Antiterroriste, le Comité des Droits de l'Homme de l'Enfant de l'ONU, Amnesty International, Human Rights Watch, la Ligue des Droits de l'Homme et j'en oublie, et bien sûr le collectif Famille Unie qui regroupe les parents, les grands-parents, les oncles et les tantes. Il y a Life for Paris, depuis peu il y a 13-11-15 qui regroupe des familles. Du 13 novembre, il y a la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats. Et cela montre à quel point cette situation figée est incompréhensible pour beaucoup de monde et pour vous. C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Albert, vous êtes le premier, soyez le bienvenu, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Albert.
Alors, merci de me donner la parole. D'abord, j'aimerais savoir comment un chef de l'État peut fabriquer des orphelins en laissant leur mère mourir faute de soins, priver des enfants de l'accès à l'éducation et les condamner à vivre dans des camps dans les conditions que l'on connaît, et en même temps, sans vergogne, oser faire de l'enfance un thème fort de son mandat. Qu'est-ce qui nous différencie de ceux qu'on combat quand on ne respecte pas les engagements qu'on a signés concernant les droits de l'homme et de l'enfant, quand on s'assied sur l'état de droit et qu'on se retranche derrière l'acte de gouvernement? N'est-ce pas là une victoire de Daesh?
Et vous êtes directement concerné, Albert, si je ne m'abuse?
Oui, j'ai une de mes filles qui est à Roj avec mon petit-fils qui a 3 ans. Il est arrivé au camp d'Alol, il avait 2 mois.
Et est-ce que vous avez moyen d'avoir des nouvelles, de savoir comment ils vont de manière un peu régulière? Comment ça se passe pour vous?
Non, c'est pas régulier, c'est très difficile. Elles sont autorisées à l'accès à un téléphone, à l'administration du camp de Roj. Une fois par semaine de façon très aléatoire, et c'est un message audio qui dure uniquement à peine une minute. Par exemple, je n'ai pas de photo de mon petit-fils depuis plus de 2 ans. Mmh. Voilà, très très clair. La dernière fois que je l'ai vu, c'est parce qu'il était filmé par un reporter, un journaliste qui est allé à Roche.
Mmh. Merci beaucoup Albert pour ce témoignage. Vraiment merci pour discuter ensemble et jusqu'à 20h. Je vais vous présenter les invités qui sont autour de cette table. Je vais commencer avec vous Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Je commence avec vous parce que vous êtes dans une situation qui peut ressembler à celle d'Albert. Vous êtes le grand-père de 4 garçons actuellement dans le camp de Roj. Marie Dauzé est là également, bonsoir.
Bonsoir.
C'est vous l'avocate du collectif Famille Unie. Arthur Desnouveau est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Rescapé du Bataclan, vous êtes le président de l'association Life for Paris. Et puis Sophie Parmentier évidemment nous accompagne ici. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Journaliste spécialisée justice à France Inter. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Marie Dauzé, au témoignage d'Albert, en fait?
On peut l'expliquer. D'abord, Albert fait probablement référence à une mère qui est décédée le 14 décembre 2021. Dans le camp, j'avais demandé à 42 reprises à l'Élysée et au Quai d'Orsay son rapatriement. Toutes mes demandes s'étaient terminées par « cette femme va mourir si vous la laissez dans le camp ». Elle est effectivement morte après 3 ans d'agonie. Elle est morte devant sa petite fille qui avait 6 ans quand elle est décédée, qui est rentrée dans le camp à 3 ans et qui a donc regardé sa mère souffrir sous sa tente pendant 3 ans.
42 fois, pardon Marie Dauzé.
Ah oui, 42 reprises. Et ça m'a toujours été refusé. Donc cette petite fille française de 6 ans est dans un camp avec sa mère enterrée à quelques mètres à proximité du camp depuis le 14 décembre 2021. Elle n'est pas rapatriée, elle est seule, livrée à elle-même, et elle regarde ses petits copains belges, allemands rentrer chez eux avec leur mère. Voilà.
Il y a beaucoup de questions qui demandent, c'est celle de Christelle qui est en Corse par exemple, qui dit « avez-vous des contacts avec le gouvernement ? Vous venez d'y répondre partiellement depuis la décision du comité des droits de l'enfant, etc. » Et qui demande surtout « quelle est la réponse qu'on vous fait ? Est-ce qu'on vous explique ou est-ce qu'on se contente de ne pas vous répondre ?»
Les autorités françaises sont renseignées sur ce qui se passe dans ces camps presque de façon hebdomadaire. J'écris presque chaque semaine, en tout cas plusieurs fois par mois, sur l'état de santé de tel enfant, telle épidémie s'agissant de plusieurs enfants, l'état de santé de cette femme. Depuis maintenant 3 ans, voilà 3 ans que je renseigne sur ce qu'il se passe dans ces camps. J'ai été reçue au Quai d'Orsay. On m'a dit à un moment donné, ça suffit, c'est l'Élysée qui prend cette décision. Ça se passe à l'Élysée, donc désormais, votre interlocuteur, c'est l'Élysée. Donc, je renseigne l'Élysée. Je n'ai jamais eu aucune réponse. Jamais. Et même après la condamnation par le comité des droits de l'enfant des Nations Unies, même après la condamnation de la France par ce comité, puisque la France viole la Convention internationale des droits de l'enfant, je n'ai pas eu de réaction.
Marc, des nouvelles de vos petits-fils, je posais la question à Albert tout à l'heure, vous en avez comment et à quelle régularité ?
Alors, c'est un petit peu comme Albert, c'est-à-dire on a des nouvelles, effectivement, elles nous arrivent de temps en temps. On a une antériorité, je dirais, c'est-à-dire que les enfants sont emprisonnés depuis maintenant 4 ans, depuis plus de 1500 jours. Au départ, c'était relativement aisé d'avoir des nouvelles, des photos, des messages. Et puis au fur et à mesure du temps, c'est devenu de plus en plus compliqué, comme si on essayait de couper ces liens de ces enfants avec la France, avec leur famille, quoi. Et voilà, donc on arrive à avoir des nouvelles, on arrive à savoir comment ils vont, s'ils vont bien, s'ils sont malades. On connaît aussi, pour nous c'est pas des petites silhouettes dans le lointain derrière un grillage. Ouais. Je veux dire, c'est des enfants en chair et en os qui nous ont parlé, qui nous parlent aussi parfois par téléphone. On sait ce qu'ils pensent, on sait ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent, c'est rentrer en France, très clairement.
Ils s'en souviennent. Alors, vous en avez 4, il y en a un qui est presque un ado désormais, qui a 11 ou 12 ans. Donc,
l'aîné a 12 ans, il vient d'avoir 12 ans le mois dernier. En fait, il est parti, si on peut dire, il avait 5 ans et demi. C'est-à-dire que nous le connaissions, qu'il nous connaît, qu'il a encore des souvenirs de la France, il a encore des souvenirs des moments où il allait en vacances avec nous, des moments où on l'emmenait au théâtre, au cinéma, etc. Ensuite, il a 2 ans et demi chez Daesh et puis 4 ans dans un camp. Voilà, un petit peu sa vie. Et puis ses 3 petits frères, bon, quand ils sont arrivés dans le camp, le deuxième avait pas 4 ans, le troisième n'avait pas 2 ans et le dernier, il n'était pas né puisqu'il est né dans le camp sous la tente.
Et les plus petits, par exemple, est-ce qu'ils savent lire? Est-ce qu'il y a moyen d'essayer de leur apprendre? Est-ce que leur mère a au moins cette possibilité? Est-ce qu'il y a cette possibilité?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est dans le camp, il n'y a pas d'école. En fait, il y a une structure, où il y a quelques cours d'arabe et de kurde. À part ça, ce sont leur mère qui essaye de les faire progresser. Alors, oui, l'aîné sait lire et écrire. Le deuxième, des chiffres. Le troisième sait déjà écrire son nom, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, mais le retard scolaire, ce n'est pas ce qui est le plus important. Je pense qu'un enfant à cet âge rattrape extrêmement vite ce retard scolaire.
Non, mais c'est aussi ne rien faire, absolument rien, de rien, de rien toute la journée, en fait. Donc au moins un livre ou quelque chose, ça permet d'occuper ces tout petits pendant ces journées-là.
Alors ils ont eu des livres, puisque nous sommes. Sophie le sait, nous sommes allés en Syrie en 2019. On a pu apporter 2 valises pleines de livres, pleines de matériel pédagogique, pleines de livres pour enfants. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui ont pu aller en Syrie parce que c'est pas possible d'envoyer des colis. Mais on fait en sorte que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va dans le camp, il apporte quelque chose, au moins à ce niveau-là.
Et vous nous raconterez dans un petit instant ce qui s'est passé, vous, quand vous avez pu y aller, effectivement. Vous m'avez dit 2019, 2019. C'est ça, quand vous avez pu. Je voudrais quand même me tourner vers vous, Arthur, de nouveau, parce que vous êtes la première association de victimes avec Life for Paris à avoir lancé ce type d'appel, à l'avoir écrit très concrètement. Quelle réaction vous avez eue ? Est-ce qu'on a compris la démarche d'une association comme la vôtre ?
Je crois que la démarche a été bien comprise. En tout cas, on n'a pas eu de retour négatif. Alors, c'est sûr que c'était un saut dans l'inconnu quand on l'a fait.
Ouais.
Mais c'est pour ça qu'on a essayé d'expliquer vraiment notre démarche, qui était double. C'était déjà de dire qu'on ne peut pas s'enorgueillir d'avoir un tel procès, d'opposer la force de la justice et de la démocratie à la barbarie, quand nous-mêmes, on ne respecte pas nos principes humanistes. Ça, c'est le premier axe. Et la deuxième manière de voir les choses, c'est aussi qu'on est en train de nourrir un problème sécuritaire évident. Quand on écoute le procès, on voit bien que là, en se conduisant comme on le fait, on nourrit la propagande à venir et on a éventuellement des futurs combattants qui seront recrutés. Mmh. Enfin, le 13 novembre, c'est quand même Oussama Attar qui est à la tête de tout ça, qui est un des plus jeunes radicalisés européens quand il part à cette époque-là. Mmh. Et donc, il y a un raisonnement logique derrière tout ça. C'est pas un humanisme béat. C'est de se dire, si on est un pays avec des valeurs et qu'on est fier de notre justice, eh ben, il faut aussi respecter tous nos citoyens et il faut respecter les droits de ses enfants et les faire rentrer.
Et d'autant que tout le monde a suivi cette actualité, c'est quand on est passoire, on a vu un moment qu'ils ont été directement attaqués, on peut s'en évader parfois, on peut aller chercher ces jeunes gens, les femmes aussi, enfin, et les transformer en combattants, ça existe ça évidemment, Marie Dosé, ça s'est passé il y a très très peu de temps encore la dernière attaque.
Alors la prison d'Assaké a été effectivement prise d'assaut par Daesh et des djihadistes ont été libérés, mais là on parle des hommes. Oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que les femmes aujourd'hui, les femmes françaises et leurs enfants sont essentiellement, à 99% des cas, dans le camp Roge. Mmh. Avant, beaucoup étaient dans le camp Al-Hol. Mmh. Du camp Al-Hol, on pouvait s'évader. Et certaines femmes ont réussi à s'évader, non pas pour rejoindre Daesh, hein, mais pour rejoindre la Turquie afin d'être expulsées vers la France. On ne s'évade pas du camp Roge. Mmh. C'est impossible. Ces femmes ne peuvent pas s'évader. Par contre, Daesh appelle à libérer ces femmes et ces enfants, c'est-à-dire à les enrôler de nouveau. Et un jour, ils y arriveront, comme ils sont arrivés d'ailleurs à libérer des djihadistes étrangers. Donc le risque sécuritaire, il est là aussi, surtout.
Et pardon d'insister là-dessus, mais quand vous avancez cet argument du risque sécuritaire, il n'y a pas plus de répondants auprès des pouvoirs publics avec ce risque sécuritaire?
Ma conviction, c'est que le président de la République sait qu'il faut rapatrier ses enfants et leur mère. J'en suis persuadée. Mais je pense qu'il y a eu une forme de piège. De piège parce que, rappelons-le, le plan de rapatriement, il était prêt, il était fait, il a été établi, tout était organisé. Et c'était au premier trimestre 2019. Et puis, il y a eu une fuite dans les médias, hein, qui a contraint les autorités à décider de reporter ce plan de rapatriement. Ensuite, un sondage, et puis la crise des gilets jaunes, et puis la crise sanitaire, et puis un quinquennat, c'est très court. Mmh. Et on est finalement très vite en période électorale, et on a peur de prendre des décisions courageuses, mais qui peut-être, peuvent exciter le pire dans la population, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a eu ce piège-là. Mais je sais, parce que ça n'est pas possible autrement, que l'Élysée a parfaitement conscience que c'est un impératif sécuritaire et humanitaire. Et puis, il y a quelque chose aussi sur la fabrication, je n'ai pas envie de dire de la radicalisation, mais on est en train de transformer ces femmes et ces enfants en martyrs. On est en train de nourrir l'idéologie de Daesh en faisant ça aussi. Donc voilà, rappelons-le, c'est important. Ces mères, ces femmes, elles ne sont judiciarisées qu'en France. Mmh. Elles ne peuvent pas être jugées là-bas. C'est impossible. L'Irak feint de non recevoir. Il n'y aura jamais de tribunal pénal international là-bas. Elles ne sont judiciarisées qu'en France. Le simple fait d'être allé rejoindre Daesh, c'est une association de malfaiteurs à caractère terroriste. Les juges d'instruction travaillent sur leur cas depuis des années. Donc voilà, elles rentrent, elles sont mises en examen, placées en détention provisoire, les enfants sont placés en famille d'accueil, rejoignent ensuite leurs parents, et les enfants vont voir maman dans les parloirs familiaux avec des psychologues, des éducateurs. Tout ça, c'est connu, c'est fait, c'est éprouvé, c'est déjà mis en place. Donc voilà.
Là-dessus, Sophie Parmentier, je voudrais que vous nous racontiez, parce qu'il y a effectivement les femmes qui sont à l'intérieur de ce camp avec les enfants, puis il y a ceux qui ont réussi à quitter Daesh plus tôt et qui sont passés effectivement par cette filière-là, qui sont passés par la Turquie, qui avec leurs enfants, qui sont attendus en Turquie, pris là en charge par la justice française, ramenés en France, jugés, etc. On parle de combien de femmes, combien d'enfants, et qu'est-ce qui se passe avec ces enfants-là ?
Alors, je crois que ce qu'il est important de dire, je voudrais juste rebondir aussi sur l'argument sécuritaire et dire que le coordinateur des juges antiterroristes, David Depasse, lui-même, appelle au rapatriement justement, précisément pour cet argument sécuritaire. Et là, en effet, on est en train de parler de 200 enfants qui sont retenus derrière des grillages et des barbelés, principalement dans le camp de Roge aujourd'hui pour les Français, avec leur mère. Mais il y a aussi de nombreux enfants français, environ plus de 150 enfants français, sont déjà rentrés ces dernières années en France avec leurs parents qui eux aussi avaient rejoint Daesh, qui eux aussi étaient visés par des enquêtes en France. Et là, il n'y a pas eu de débat précisément parce que, comme vous dites, Fabienne, ils ont été arrêtés en Turquie et depuis 2014, il y a un accord qui a été signé entre Bernard Cazeneuve et la Turquie et Ankara automatiquement expulse les djihadistes français. Donc, quand ils arrivent, eh bien, ils atterrissent à Roissy, eh bien, il y a la DGSI qui récupère les adultes, ils sont mis en examen par les juges et les enfants sont placés auprès de l'aide sociale à l'enfance sous la protection d'un juge et sont suivis. Et en fait, il y a plus de 150 enfants dans ce cas-là pour lesquels il n'y a pas de débat. Et en effet, ça, l'État le sait très bien.
Alors avant de manger la suite de ce que vous allez nous dire, je voudrais qu'on écoute Tom parce que vous êtes en train d'avaler sa question. Bonsoir Tom.
Oui, bonsoir. Merci.
On vous écoute.
Je suis étudiant en droit et voilà, je trouve ça scandaleux ce qui se passe aujourd'hui. J'espère vraiment que ces enfants vont être rapatriés et que leur mère aussi. Donc ma question est la suivante, c'est depuis le début de la guerre en Syrie, combien d'enfants, combien de Français, adultes ou enfants, sont déjà rentrés sur le territoire national français et comment se passe la prise en charge, notamment pour les enfants.
Merci beaucoup Tom, c'est pour ça que je vous ai interrompu Sophie. La prise en charge des enfants, comment ça se passe?
Alors sur les enfants qui sont revenus, je vous disais, il y en a plus de 150, les adultes, il y en a environ 300 en fait, qui sont revenus. Donc les adultes ont tous été mis en examen. Pour la plupart, ils ont eu des procès, souvent devant des tribunaux correctionnels et condamnés à des peines variables, 10 ans ou plus, parce que la justice est désormais plus sévère en fait avec ceux qui ont rejoint Daesh, notamment après 2015. Et les enfants, eh bien, ils sont pris en charge donc sous la protection d'un juge des enfants, avec des assistantes maternelles, des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance. Et puis, il y a des psychologues, des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis, il y a des psys qui les suivent. Il y a beaucoup d'enfants. Les premiers qui sont rentrés arrivés tous en Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Ce sont les juges des enfants de Bobigny qui ont été les précurseurs. Et donc, c'est l'hôpital Avicenne, notamment, avec un psy qui s'appelle Thierry Bobet, qui a énormément suivi ces enfants. Mais il y a aussi des expertises psy qui sont faites notamment par Serge Fès, qui a été nommé par les juges. Donc, en tout cas, il y a un encadrement énorme de ces enfants, un suivi au long cours, et à un moment donné, eh bien, très souvent, le juge des enfants considère que la famille, les grands-parents ou les oncles et tantes, eh bien, sont en mesure d'accueillir ces enfants. Et donc, au bout d'un certain nombre de mois, eh bien, les enfants, je connais plusieurs enfants qui sont rentrés. Par exemple, j'ai en tête l'exemple des premiers orphelins qui sont rentrés en mars 2019. Il y avait 3 petits garçons orphelins. Ils ont été placés dans un premier temps et puis aujourd'hui ils vivent chez leurs grands-parents, ils vont à l'école, ils ont appris le français et sur les photos que je vois, eh bien, ils ont le sourire, ils vont bien.
Et c'est important d'entendre ces choses-là, Marc, j'imagine, parce qu'un jour, c'est ce qu'on espère pour vous, vous allez les revoir, vos petits-enfants, les enfants sont élastiques à cet âge-là et évidemment que quand on sort d'un camp comme ça, il faut du temps de réadaptation, mais ça reste des enfants, ce sont des petits-enfants.
Ce sont des enfants et ce sont des enfants qui se projettent, qui se projettent. C'est-à-dire que la plupart, je pense que les enfants qui dans le camp vont le mieux, entre parenthèses, si on peut aller bien dans un camp, c'est ceux qui ont une famille et qui les attend. Hein, c'est ceux qui savent qu'il y a des oncles, des tantes, des grands-parents, une famille, des cousins qui pensent à eux en France et qui les attendent et qui surtout font énormément de choses pour qu'ils reviennent.
Une question pour vous, Arthur, de nouveau, c'est celle de Antoine Jacques. Bonsoir Antoine Jacques.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bonsoir. Alors, je vous ai posé la question. Pensez-vous que l'opinion publique a évolué sur le sujet au gré des différentes prises de position en faveur du rapatriement?
Et est-ce que vous avez changé, vous aussi, Antoine Jacques, au gré des différentes prises de position ou pas?
Oui, parce que bon, je suis quand même scandalisé que la France laisse mourir ses propres enfants dans ses camps.
Merci beaucoup Antoine Jacques. Et c'est vrai, Arthur Desnouveaux, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que des associations comme les vôtres aussi peuvent plonger dans ce débat-là, si je puis dire. Est-ce que vous avez le sentiment que oui, l'opinion a changé là-dessus?
Moi j'ai le sentiment que l'opinion a changé, et j'ai le sentiment que c'est ça, évidemment, l'intérêt que les associations de victimes se positionnent, parce qu'on sert de caution implicite au fait d'enfermer quelque part les enfants de nos bourreaux dans des camps. Et nous, on est bien là pour rappeler que c'est pas ça la justice, que c'est pas ça qu'on veut, et que c'est pas ça qui va améliorer en quoi que ce soit notre situation. Et donc, on voulait être sûr que le message soit clair, que c'était pas en notre nom que c'était fait, et que ça ne faisait finalement que rajouter de la douleur à la douleur, et que c'était pas ça le processus de justice qu'on attendait tous.
Vous l'avez fait un peu avant, il y a d'autres associations qui l'ont fait là tout récemment, en plein procès. Ça dit des choses aussi de le faire au moment du procès du 13 novembre.
Oui, parce que le procès a un tel éclat médiatique qu'on a l'impression qu'on est en train de régler tous les problèmes du terrorisme avec un procès auquel on a donné des moyens incroyables. C'est pas le cas, premièrement. Deuxièmement, on est en train de juger le passé. Soyons honnêtes, c'est une cellule qui a été active dans les années 2013, 2014, 2015. Là, on est en train de parler du présent et on est en train de parler de l'avenir. On est en train de parler de ce qui va nourrir la propagande, ce qui va nourrir un sentiment anti-français et éventuellement, on en parlait malheureusement, un futur recrutement. Et donc, le procès, c'est le passé. Ce problème des enfants, c'est le présent et l'avenir. C'est pour ça qu'il faut le traiter maintenant et il faut que cet été, ça trouve une solution au plus tard.
Et Marie Dosé, c'est important l'opinion publique, c'est important ce que disent les gens, comment l'opinion bouge là-dessus, parce que évidemment que ça fera bouger les lignes des politiques, enfin en tout cas c'est ce qu'on imagine.
Oui, c'est compliqué, c'est quoi l'opinion publique? En tout cas, moi ce que je constate, c'est qu'il y a 3-4 ans, quand je prenais position publiquement sur cette question, c'était très mal accueilli et je recevais de drôles de mails à mon cabinet. Aujourd'hui, je reçois une quinzaine de demandes de stage. Je pense que l'opinion publique, il faut pas la figer dans le pire, au contraire, elle évolue. Il suffit juste de faire preuve de pédagogie et j'étais très émue, moi, lorsque certaines familles ont été reçues par des associations de victimes de terrorisme, comme l'association 13-11-15, une rencontre entre des familles, des grands-parents, Philippe Duperron, qui cite régulièrement Sénèque, et je veux juste le faire parler. Ce sont ces mots. C'est Philippe Duperron qui a dit « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. » En parlant de ses enfants. Et c'est vrai que la FENVAC, l'association 13-11-15, Arthur Desnouveaux aujourd'hui, voilà, ce sont des prises de parole qui comptent. On n'ajoute pas du traumatisme au traumatisme. Voilà, il faut que ça s'arrête maintenant. Ouais. La seule façon de lutter contre le terrorisme, c'est d'être fort dans notre état de droit.
Alors, ça suscite aussi, évidemment, un certain nombre de questions. Il y en a beaucoup de cet ordre-là. Bonsoir, Guillemette.
Bonsoir.
On vous écoute, Guillemette. Allez-y.
Alors, merci de prendre mon appel. Je ne pense pas être la seule à avoir la réaction que je vais exprimer, enfin l'avis que je vais exprimer. Je crois qu'il faudrait pouvoir dissocier le cas des enfants de celui des mères. Les enfants, les pauvres petits, sont trouvés embringués là-dedans sans avoir leur mot à dire. Hein, ils n'ont rien décidé, ils vivent le pire et il est évident qu'il faut les rapatrier au plus vite et qu'on aurait même dû le faire depuis longtemps. Les mères, il en va différemment. Alors je ne dis pas qu'il ne faille pas les rapatrier, mais les conditions sont difficiles quand même à définir. Parce que les mères, elles savaient parfaitement ce qu'elles faisaient quand elles sont allées rejoindre Daesh et qu'elles y ont embarquer leurs enfants.
Guillemette, merci beaucoup. Je voudrais ajouter à votre question cette remarque sur franceinter.fr. Je cherche le nom de l'auditeur, il n'est pas là, c'est pas grave. Alors qu'il me semble évident que les enfants doivent être rapatriés, pourquoi doit-on s'occuper de ces mères monstrueuses qui utilisent leurs enfants comme outil de chantage? Elles ont tourné le dos à la France, voire pire. Pourquoi devrait-on être solidaire? N'oublions pas pourquoi ces femmes sont parties, dit cette autre auditrice, sont parties, à quelle cause elles ont adhéré en toute conscience. C'est dramatique pour les enfants, d'accord, mais rapatrier ces enfants, c'est aussi rapatrier ces mères-là, qu'est-ce qu'on dit?
Moi, je voudrais dire que notre position est claire sur le sujet. Il faut rapatrier ces mères et il faut les judiciariser. C'est d'ailleurs ce que dit David Depas. C'est pas du tout les rapatrier pour qu'elles soient mises dans un appartement avec leurs enfants. L'idée, c'est évidemment que ces femmes aient affaire à la justice. C'est ça l'état de droit. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut que les enfants, eux, soient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, dont on sait malheureusement, d'ailleurs, en France, qu'elle manque de moyens, ce qui est aussi quelque chose qu'on passe un peu sous silence. Mais en tout cas, ces femmes-là sont pas là pour être rapatriées aux frais de la princesse. Elles sont là pour être jugées pour ce qu'elles ont fait, avec toute la fermeté de la loi, ni plus, ni moins. La loi ne prévoit pas d'enfermement dans des espèces de camps ubérisés, hors de tout cadre.
Et il faut rappeler, Marie Dosé, que les femmes qui sont rentrées ont été judiciarisées, qu'elles sont en prison. Enfin, il faut rappeler les cas que l'on connaît. Il y en a beaucoup. Sophie a parlé du nombre tout à l'heure. Aucune de ces femmes n'est rentrée et ne s'est installée, comme le disait Arthur Desnouveaux, effectivement, dans un appartement tranquillement. C'est pas comme ça que ça se passe du tout.
Non, nous sommes dotés, la France s'est dotée en tout cas d'une justice antiterroriste extrêmement répressive, la plus répressive d'Europe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que toutes ces femmes sont sous le coup d'un mandat d'arrêt internationale pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. Elles seront toutes jugées par une cour d'assises spéciale, pas par un tribunal correctionnel, par une cour d'assises spéciale. Et la peine encourue, je dis bien la peine encourue, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Donc, si on considère que ces femmes doivent évidemment faire face à leurs responsabilités, ben, il faut les rapatrier parce qu'il faut des procès. Ces femmes sont nées en France, se sont radicalisées en France, sont parties ensuite pour rejoindre une organisation terroriste. Quelles que soient les actions qu'elles ont pu avoir là-bas, l'association de malfaiteurs à caractère terroriste est caractérisée. Il suffit d'être allé rejoindre Daesh. Donc en réalité, lorsque j'entends « mais vous vous rendez compte, il faut au contraire les laisser là-bas puisqu'elles nous ont tourné le dos », il faut les juger pour ce qu'elles ont fait. Et cela fait partie de notre histoire. Elles sont françaises, elles ne peuvent être jugées nulle part ailleurs qu'en France, il faut donc les juger ici. Et puis, il y a autre chose, je vous le dis très sincèrement, je porte la voix là de Boris Cyrulnik, pédopsychiatre éminent, qui en sait quelque chose quand même de ce qu'est un enfant des camps. Je porte la voix de Serge Éphèse, qui s'est occupé de ses enfants lorsqu'ils sont rentrés en France. On ne sépare pas un enfant de sa mère dans un camp en zone de guerre. Ça n'est pas possible. On ajoute du traumatisme au traumatisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Que des gamins vont se lever tous les jours en se disant « mais maman, elle est peut-être morte sous la tente ». Et puis ils vont aller à l'école en regardant « Liberté, Égalité, Fraternité ». Ces mères, elles sont coupables d'un crime, ou en tout cas, elles vont être jugées pour avoir commis un crime. Et les magistrats vont décider de leur sort. Mais ces mères, ces enfants ne connaissent qu'elles. C'est elles qui les protègent du froid, c'est elles qui dorment avec leurs enfants. Ces enfants sont avec elles 24 heures sur 24. La seule source de chaleur, ce sont les mères. Si vous arrachez ces enfants à leur mère dans les camps, mais qu'est-ce qu'on va construire? Comment on va expliquer à ces gamins quand ils auront 15 ou 16 ans qu'on a laissé crever leur mère dans des camps alors qu'elles étaient prêtes, elles, à être judiciarisées en France? C'est ça la folie.
La mère, le seul pilier, Marc, j'imagine que ça, non seulement ça vous parle, mais vous savez exactement de quoi on est en train de parler.
Ben bien sûr, depuis qu'ils sont dans les camps, de toute façon, la seule protection, c'est leur mère. Quoi qu'on puisse penser de ce qu'elles ont fait, quel qu'ait été leur parcours, ils auraient dû être protégés par la France, et ça n'a pas été le cas. Là, ils sont dans une situation, dans une espèce de cloaque d'insécurité, et la seule personne qui les maintienne en vie, si j'ose dire, c'est-à-dire qui est là pour les laver ou qui est là pour les nourrir, c'est leur mère. C'est la France qui a décidé ça. C'est la France qui a décidé de laisser les enfants dans les camps dans cette situation-là. Et j'ajouterais que bon, il y a quand même trois arguments. Bon, il y a l'argument sécuritaire qui a été avancé par Arthur Desnouveaux. Il y a aussi évidemment l'argument qui est employé systématiquement dans tous les autres pays européens, qui est l'intérêt supérieur de l'enfant. Tous les autres pays européens, à commencer la Finlande ou l'Allemagne, tous systématiquement, quand ils rapatrient des enfants, rapatrient des mères avec. Les autorités finlandaises même disent, nous ne pouvons pas rapatrier les enfants sans les mères, pour une raison très simple, c'est que dans la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est indiqué que les enfants doivent rester avec leur mère, ne peuvent pas être séparés de leur mère, en tout cas dans ces situations-là. Et puis il y a aussi un troisième argument, c'est que l'administration kurde est absolument contre la séparation des enfants et des mères et demande au pays de rapatrier les enfants avec leur mère. Il y a un seul pays où il y a une dérogation, c'est la France.
On l'a fait nous, d'ailleurs, non, rapatrier les enfants et laisser la mère, Sophie? Sophie Parmentier?
Oui, alors peut-être que Paris Dauzé a en tête. Je voulais rebondir aussi sur les mères et dire que parmi les mères qui sont jugées, j'en ai vu plusieurs. C'est pas du tout un cas isolé, qui explique qu'elles regrettent d'avoir rejoint Daesh, et c'est précisément pour leurs enfants qu'elles ont fui l'État islamique. Et parmi ces mères qui ont été jugées récemment, j'ai en tête un cas, il y a un djihadiste breton qui s'appelle Gyabarch, en fait, qui a été condamné à une lourde peine. Il était parti avec des co-épouses. Eh bien, il y a plusieurs de ces femmes, dont certaines étaient en détention provisoire. Elles ont été jugées devant une cour d'assises spéciale ces dernières semaines, et certaines de ces mères qui avaient été séparées de leur enfant pendant un temps, avec, comme je vous l'explique, l'ASE, le juge des enfants qui surveillait ce qu'il se passait pour les enfants, tout allait bien pour les enfants, et bien certaines sont sorties de la salle d'audience du procès et ont pu retrouver leur enfant libre, enfin en ayant cette condamnation mais en ne retournant pas en prison avec des peines de sursis. Et du coup, ça veut dire que la justice aujourd'hui peut faire le cas par cas, justement, enfin, faire la différence. On peut pas dire que toutes les mères qui ont voulu rejoindre Daesh à un moment donné, vous savez qu'il y avait de très jeunes filles, eh bien, finalement, c'est trop tard et il n'y a plus rien à faire. Parce qu'il y en a certaines qui vraiment ont cherché à fuir, et il y en a d'autres, par ailleurs, qui étaient dans le dernier bastion de l'État islamique. Et j'ai un autre exemple en tête, par exemple, Jennifer Klein, qui, elle, attend son procès, qui est une nièce des frères Klein qui ont revendiqué les attentats du 13 novembre. Eh bien, elle, elle est rentrée précisément par la Turquie, et donc, elle est revenue en France avec ses enfants sans qu'il y ait débat.
Et le cas par cas, Arthur Desnouveau, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est aussi ce qui est au cœur du procès qui a lieu en ce moment. C'est comme ça que fonctionne la justice, et heureusement.
Évidemment, et ces cours d'assises spécialement composées sont extrêmement professionnelles, comme le terme l'indique, et elles traitent ces sujets-là avec toute la sévérité nécessaire, mais aussi toute la rigueur nécessaire. Et c'est pour ça qu'on peut voir, dans certains cas, des gens sortir libres à l'audience. Et il faut voir la qualité de la justice antiterroriste en France. Oui, elle est dure, mais elle est aussi extrêmement forte. Mmh. Et donc, toutes celles, parce que là on parle des femmes qui seront jugées, auront un procès équitable, et la société française pourra être sûre que le jugement a une valeur.
On va retourner au standard, mais vous vouliez ajouter quelque chose, Marie Dosé?
Non, toutes celles qui ont fui les camps, qui sont rentrées en France avec leurs enfants, sont toujours en détention provisoire. Elles ne sont pas encore jugées. Sachez que la plupart d'entre elles sont désormais au quartier de prise en charge de la radicalisation de Rennes, qu'elles font l'objet d'évaluations quasi quotidiennes avec des psychologues, des référents cultuels. Il y a aussi des expertises médico-psychologiques, des expertises psychiatriques. Il y a vraiment un savoir-faire là. Donc il ne faut pas non plus nourrir le fantasme de on ne sait pas gérer, c'est pas vrai. On a vraiment travaillé et sur les enfants et sur la prise en charge au niveau pénitentiaire de ces femmes et le quartier de Rennes en tout cas fonctionne, j'y vais régulièrement moi.
Benoît est avec nous. Bonsoir Benoît.
Bonsoir. Oui, donc moi je suis à la retraite, j'étais pendant 40 ans travailleur social, éducateur plus exactement, dans une maison d'enfants, j'étais chef de service pendant presque 30 ans. Et donc j'ai eu affaire tout le long de ma carrière à des enfants qui étaient en grande difficulté, avec un processus très simple, l'enfant est considéré comme étant en danger, ou en risque, le juge des enfants est saisi, puis le juge d'enfant évalue la situation, et si la situation le nécessite, il demande à l'aide sociale à l'enfance de le prendre en charge pour un placement en famille d'accueil ou en établissement, ou dans la famille proche, si la famille proche est capable de l'accueillir dans de bonnes conditions. Donc moi je comprends pas qu'on ne mette pas en place ça. Il n'y a pas de différence entre un Français c'est un Français, un petit Français c'est un petit Français, qu'il soit à l'autre bout du monde ou qu'il soit à proximité, je comprends pas qu'on mette ça en œuvre de manière efficace. Et puis le corollaire de ça, c'est que effectivement, on ne sépare pas les enfants de leur famille, donc on fait en sorte que la famille, quelques délits qu'elle ait commis, soit à proximité pour pouvoir travailler cette relation. Et normalement, on est relativement. Bon, il y a des carences, évidemment, on peut souligner les manques, mais grosso modo, les travailleurs sociaux, les psychologues, j'inclus les psychologues, les psychiatres, pédopsychiatres et autres, on sait faire. Donc, je vois pas ce qui peut autoriser l'État à traiter les petits Français d'ailleurs pas comme les petits Français d'ailleurs. D'ailleurs, j'en profite pour dire que
rapidement, Benoît, pardon.
Les mineurs non accompagnés, c'est la même chose. Ils sont mineurs, ils sont pris en charge par l'aide sociale de l'enfance. Donc je comprends pas.
Merci Benoît, pardon de vous interrompre. Un mot là-dessus, Marie Dosé, je vous voyais réagir au témoignage de Benoît.
Oui, la France est une nation qui n'abandonne jamais ses enfants, quelles que soient les circonstances et fût-ce à l'autre bout de la planète. C'est une citation d'Emmanuel Macron qui a décidé, et il l'a dit à la toute fin de son dialogue entre guillemets avec Marine Le Pen, que le prochain quinquennat se fera sous le sceau de la protection de l'enfance. Voilà, je crois qu'il faut que ça s'arrête tout ça.
Et puisqu'il y a encore des inquiétudes, il y a notamment celle de Lionel, ce sera vous le dernier Lionel, je vous fais confiance, allez-y.
Oui, allez-y. Moi je suis même certain qu'un enfant ne garde pas son statut d'enfant toute sa vie. Un beau jour, il devient adulte, et qui dit qu'il ne va pas lui-même se radicaliser vu l'embrigadement qu'il a subi pendant toutes ces périodes, et sa mère quand même a pris la décision de rejeter l'Occident et d'avoir la haine contre l'Occident, et qui dit que demain, son fils n'aura pas exactement la même pensée. Voilà.
Merci pour ce témoignage, Lionel. Il y en a un certain nombre des gens comme Inès. Je voudrais d'abord me tourner vers vous, Marc, là-dessus. Quand on entend des gens comme Marc et que vous voyez, vous, vos petits-enfants, est-ce que vous avez parfois ce genre de crainte en regardant l'aîné, par exemple, ou est-ce que ça ne vous a jamais traversé l'esprit ?
Bien, écoutez, tout peut nous traverser l'esprit, mais enfin, ce qui est dit là, c'est que pour le moment, ce sont des enfants, et je vois pas au nom de quoi on pourrait condamner des enfants sur une hypothèse, c'est-à-dire sur une opinion ou une action qui pourrait avoir dans 15 ou 20 ans. Pour le moment, ce sont des enfants. On voit très bien que ce sont des enfants. Je dirais que leur enfance est brisée dans le camp. Et la seule chose que nous remarquons, c'est que les morceaux d'enfance, ils les ramassent par terre, si j'ose dire. Ils arrivent à vivre avec. Ils arrivent à faire des jeux. Ils arrivent à faire des cerfs-volants. Ils arrivent à se socialiser dans le camp. Évidemment, il faudra une longue réadaptation, mais pas si long que ça, je pense, hein, parce que les enfants sont extrêmement résilients et sont extrêmement créateurs.
Marie Dosé.
Oui, je rappelle que ces enfants, la plupart du temps, la majeure partie de ces enfants avaient 2-3 ans en arrivant dans ces camps, donc on n'est pas radicalisé à 2-3 ans. Et puis, autre chose que je voulais dire, c'est en les laissant dans le camp qu'on va fabriquer de la défiance. Qu'est-ce qu'on va leur dire à 15 ans ? La France a préféré te voir périr dans un camp, mourir dans un camp, que de te voir rentrer. Excusez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas meilleur moyen pour fabriquer de la défiance envers un pays lorsqu'il vous abandonne, alors que vous êtes innocent, alors que vous êtes doublement victime de la faute de vos parents, mais aussi victime du pays qui vous laisse dans un camp entre des barbelés. Donc on se trompe en réalité. C'est l'inverse. Il faut les rapatrier justement pour éviter de fabriquer cette défense-là. Et de leur dire à 15 ans, 16 ans, il y avait une autre France que celle qui pensait qu'il fallait que tu restes là-bas. On s'est battu et tu es rentré. Regarde, il y a une autre France, il y a celle qui a dit non, t'es innocent, tu es victime et tu es français comme tous les autres enfants.
Et c'est exactement ce que dit Marie Dosé, Arthur de Nouveau, ce que vous vouliez souligner et qui justifie votre entrée.
Ce sont des enfants français. Ouais. Donc éduquons-les comme des petits français et ne laissons pas leur éducation se faire dans des conditions qui vont potentiellement faire d'eux quelque chose de dangereux. Ce sont des Français, ils ont leur place en France.
Ce sont des sujets, en tout cas, sur lesquels on reviendra, qu'on a été heureux de pouvoir aborder avec vous. Je vous remercie vraiment pour votre présence. Merci à tous pour vos très nombreux appels et portez-vous bien.